mimétiquement vôtre, Voir le monde avec René Girard.
Une émission proposée par Jean-Louis Salasque.
Dans le cinquième chapitre de son livre « Je vois Satan tomber comme l'éclair », René Girard pose une question délicate. Le déclenchement du mécanisme victimaire est-il spontané ou est-il à l'instigation de quelqu'un et de qui ? Quelques extraits de ce chapitre pour aborder cette question. René Girard. Les mythes débutent presque toujours par un état de désordre extrême. Ce chaos, le plus souvent, ne se prétend pas originel. Souvent, on peut détecter derrière lui une espèce de détraquement ou d'inachèvement, soit dans la communauté, soit dans la nature, soit dans le cosmos. Finalement, ce qui trouble la paix, c'est une épidémie, entre guillemets. Ce peut être aussi explicitement un malaise social, un conflit dont le caractère mimétique est suggéré par le rôle considérable, dans les mythes, des jumeaux ou des frères ennemis. Le conflit peut aussi se dérouler entre mille autres entités, plus ou moins fabuleuses, des monstres, des astres, des montagnes, à peu près n'importe quoi. Mais ces entités s'opposent et s'entrechoquent symétriquement à la façon des doubles mimétiques. Il peut s'agir aussi de désastres plus ordinaires, des famines, des inondations, des sécheresses destructrices et autres catastrophes naturelles. Mais toujours et partout, on peut résumer la situation initiale en termes d'une crise qui fait peser sur la communauté et son système culturel une menace de destruction totale. Cette crise est presque toujours résolue par la violence, et celle-ci, même si elle n'est pas collective, a des résonances collectives. La seule grande exception, c'est la violence duelle, qui met aux prises deux frères ou deux jumeaux ennemis, et l'un des deux triomphe de l'autre. Il y a toujours allusion à un mimétisme, conflictuel et désagrégateur avant la violence, réconciliateur et unificateur après cette même violence et grâce à elle. Tout ceci n'est pleinement visible qu'à la lumière des analyses que nous avons menées pour les évangiles et pour la notion de cycle mimétique. Au paroxysme de la crise, la violence unanime se déclenche. Dans beaucoup de mythes qui nous paraissent les plus archaïques, l'unanimité violente se présente comme une ruée en masse et qui se retrouve très évidente, manifeste, dans les rituels. Ceux-ci visiblement reproduisent la violence unanime et réconciliatrice du mécanisme victimaire. Le protagoniste dans les mythes archaïques, c'est la communauté entière, transformée en foule violente. Se croyant menacée par un individu isolé, fréquemment un étranger, elle massacre spontanément le visiteur. Les agresseurs se précipitent comme un seul homme sur leur victime. L'hystérie collective est telle qu'ils se conduisent littéralement comme des bêtes de proie. Ils réussissent à déchirer cette victime, ils la déchiquettent littéralement avec leurs mains, avec leurs ongles, avec leurs dents, comme si la colère ou la peur décuplaient leurs forces physiques. Pour désigner cette violence soudaine, convulsive, ce pur phénomène de foule, la langue française n'a pas de terme propre. Le mot qui nous monte aux lèvres est un américanisme, lynchage. Étant donné les variantes innombrables des meurtres collectifs ou d'inspiration collective, dans les mythes et dans les textes bibliques, étant donné le réalisme de certaines descriptions, étant donné les rites aussi, une interprétation purement symbolique me paraît dictée par un préjugé systématique contre le réel. Et je la rejette sans la moindre hésitation, ne serait-ce qu'en raison de l'impasse où piétine depuis des siècles l'étude de la mythologie. Puisque le lynchage à main nue joue un rôle considérable dans les mythes archaïques, pourquoi ne pas retenir l'hypothèse la plus simple, la plus logique, celle d'une violence réelle ? Si les lyncheurs déchiquettent leurs victimes de leurs propres mains, ils doivent être désarmés. S'ils avaient des armes, ils s'en serviraient. S'ils n'en ont pas, c'est qu'ils pensaient ne pas en avoir besoin. Ils s'étaient réunis pour des raisons pacifiques et soudain, les choses ont mal tourné. Les violences collectives dont j'ai parlé, la lapidation d'Éphèse, la passion, la décapitation de Jean-Baptiste, sont plus ou moins manipulées. Il existe aussi, on le devine en observant les mythes, beaucoup de lynchages spontanés. Ils doivent correspondre à des emballements mimétiques très vigoureux, qui ne rencontrent devant eux aucun obstacle légal ou institutionnel. Quelque part, la colère flambe, une panique se déclenche, et toute la communauté, par un effet de contagion instantané, se précipite dans la violence. Dans les sociétés privées de système judiciaire, l'indignation contagieuse explose sous la forme du lynchage. Louis Gernet voit dans le lynchage une modalité archaïque de la justice. C'est mieux que de ne rien voir du tout, certes, mais à mon avis, ce chercheur inverse le processus. Louis Gernet ne voit pas que le point de départ du religieux mythique, et sans doute ultérieurement de tout ce que nous appelons système judiciaire, c'est l'unanimité violente du lynchage spontané, non prémédité, qui rétablit spontanément la paix et qui, par l'intermédiaire de la victime, donne à cette paix une signification religieuse, divine. Dès que la victime est tuée, la crise est terminée, la paix est rétablie, la peste est guérie, les éléments s'apaisent, le chaos recule, le bloqué se débloque, l'inachevé s'achève, le lacunaire se complète, l'indifférencié se différencie. La métamorphose du malfaiteur en bienfaiteur divin est un phénomène simultanément prodigieux et routinier, en ceci que dans la plupart des cas, les mythes ne la signalent même pas. Celui qui, au début du mythe, se faisait lyncher parce qu'il passait pour détruire le système totémique, voilà que dans la conclusion, il préside à la reconstruction de ce même système, ou à la construction d'un nouveau. La violence unanime a transformé le malfaiteur en bienfaiteur divin, de façon si extraordinaire et néanmoins ordinaire que la plupart des mythes ne disent rien de cette métamorphose. Elle est sous-entendue. Tout s'explique si l'on comprend qu'à la fin de ces mythes, l'unanimité violente a réconcilié la communauté. Et c'est à la victime déjà coupable, déjà responsable de la crise, que le pouvoir réconciliateur est attribué. On croyait que cette victime avait péri, mais il faut bien qu'elle soit vivante puisqu'elle reconstruit la communauté, tout de suite après l'avoir détruite. Elle est de toute évidence immortelle et par conséquent divine. Ce processus doit être caractéristique des mythes en général. Les mêmes groupes humains qui expulsent et massacrent les individus vers lesquels les soupçons convergent, mimétiquement, se mettent à les adorer lorsqu'ils se découvrent apaisés et réconciliés. Ce qui les réconcilie, je le redis, ce ne peut être que la projection sur la victime de toutes leurs craintes d'abord, et ensuite, une fois qu'ils se sentent réconciliés, de tous leurs espoirs. Les lynchages ramènent la paix aux dépens de la victime divinisée. C'est bien pourquoi ils font figure d'épiphanie de cette divinité et les communautés se les remémorent dans ces comptes rendus transfigurés que nous appelons les mythes. Pourquoi les évangiles, dans leur définition la plus complète du cycle mimétique, recourent-ils à un personnage nommé Satan ou le diable, plutôt qu'à un principe impersonnel? La raison principale, je pense, est que le vrai manipulateur du processus, le sujet de la structure dans le cycle mimétique, n'est pas le sujet humain qui ne repère pas le processus circulaire dans lequel il est pris, mais bien le mimétisme lui-même. Il n'y a pas de vrai sujet en dehors du mimétisme. Et c'est cela que signifie en fin de compte le titre de prince de ce monde reconnu à cette absence d'être qu'est Satan. Satan n'a rien de divin, mais on ne peut pas le nommer sans faire allusion à quelque chose d'essentiel qui nous intéresse au plus haut point, la genèse des divinités archaïques et païennes. Même si la transcendance satanique est fausse, privée de toute réalité sur le plan religieux, sur le plan du monde, ses effets sont indéniables et formidables. Satan est le sujet absent des structures de désordre et d'ordre qui résultent des rapports conflictuels entre les hommes et qui, en fin de compte, organise aussi bien que désorganise ces rapports. Satan, c'est le mimétisme dans sa puissance la plus secrète, l'engendrement des fausses divinités au sein desquelles a surgi le christianisme. Les peuples n'inventent pas leur Dieu, ils divinisent leurs victimes. Ce qui empêche les chercheurs de découvrir cette vérité, c'est leur refus d'appréhender la violence réelle derrière les textes qui la représentent. Le refus du réel est le dogme numéro un de notre temps. C'est le prolongement et la perpétuation de l'illusion mythique originelle. C'était donc des extraits du 5e chapitre du livre de René Girard, « Je vois Satan tomber comme l'éclair ». Merci de votre écoute. À notre prochaine rencontre.